Radio Kapi. Oh, Kapi. Le bilan macabre heurte des ADF continue de grossir à Mambasa en Ituri. Cette fois, plus de 12 personnes ont encore été massacrées jeudi au village de Nzaro. Plusieurs autres sont portées disparues. Conséquence, sur l'axe Mambasa-Ndouye, on compte aujourd'hui plusieurs villages, écoles et centres de santé fantômes. La société civile appelle le gouvernement à renforcer la présence de l'armée. Les habitants du Sankuru devront patienter encore avant de connaître leur nouveau dirigeant. L'élection du gouverneur et du vice-gouverneur prévue pour le 7 avril vient d'être reportée. Dans un communiqué ce samedi, la CENI affirme ne pas encore disposer des moyens financiers nécessaires. Forêt et économie, c'est le thème de la journée internationale des forêts célébrée aujourd'hui 21 mars. Occasion pour les écologistes RDC de plaider pour une reconnaissance des efforts des communautés locales et des peuples autochtones dans la protection des forêts dans le pays. L'ONG a écrit à la ministre de l'Environnement en ce sens. Nous en parlons avec Prince Kiyangi, son coordonnateur national. Madame, Monsieur, bonjour. Nous venons de l'apprendre en Ituri. Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF a eu lieu jeudi au village de Nzaro, situé à environ 90 km de Mambasa. Le bilan provisoire fait état de plus d'une dizaine de morts, de plusieurs disparus, ainsi que de maisons et autres biens incendiés. Selon la société civile du Congo, plusieurs villages sur l'axe Mambasa-Ndouye sont désormais vidés de leurs habitants. Le trafic y est d'ailleurs interrompu. Plusieurs écoles et structures sanitaires restent fermées. Ces informations collectées par Isaac Kremo sont rendues ici par Richard Junior Kamunga.
Les rebelles ADF continuent de semer la terreur dans les territoires de Mambasa. Après les attaques signalées à Mouchacha, Babeswa et Pengue, ces combattants ont investi depuis mercredi la localité de Nzaro, située en pleine forêt. Selon la société civile du Congo, ils auraient profité de l'absence des militaires pour commettre des graves violations des droits humains. Le bilan provisoire fait état de plus d'une dizaine de morts, de plusieurs personnes portées disparues, dont moins 15 motos incendiées, ainsi que des nombreuses maisons brûlées. Face à cette insécurité, les habitants des villages environnants, notamment ceux de Malembi, ont fui vers Apodo, dans la province du Haut-Uele. Les écoles et les structures sanitaires sont fermées, tandis que les activités économiques et agricoles sont paralysées. La société civile appelle le gouvernement à renforcer la présence des FARDC dans la zone afin de mettre fin aux tueries de ces rebelles qui continuent d'étendre leur emprise. De son côté, l'armée affirme que des opérations sont en cours dans la région.
Pendant ce temps, l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par l'FC-123 est perçue par la base républicaine, partie chère à Hugo Zala, comme le signe d'un échec de la gouvernance de l'Union sacrée. Lors d'un point de presse tenu hier vendredi à Kinshasa, cette structure politique a présenté un cahier de charges visant à sortir la RDC de la crise sécuritaire, économique et politique qu'elle traverse. Dans ce document, la base républicaine préconise notamment un désengagement progressif des forces de l'FC-123 et des FARDC qui seraient remplacées par une force tampon de la MONUSCO. Suivez Caleb Nkaku, secrétaire en charge de la communication de la base républicaine.
Le gouvernement rwandais doit s'engager à cesser immédiatement tout soutien et toute collaboration avec les mouvements AFC-123 afin de faciliter le rétablissement de l'autorité de l'État sur les zones occupées par l'AFC-123 en RDC. Le gouvernement de la RDC doit s'engager à une réforme effective de ses forces de défense et de sécurité, afin d'éviter d'éventuels recours aux éléments des groupes armés non étatiques dans ses opérations militaires. Mettre en place un processus de désengagement progressif des forces de l'AFC-123 et de repositionnement des forces loyalistes selon une approche d'occupation tampon assurée par les forces de la MONUSCO. C'est-à-dire, si les forces de l'AFC-123 se retirent d'une position, elles seront remplacées par les éléments de la MONUSCO après une période bien déterminée. Ceci céderait la place aux forces loyalistes, à savoir les FARDC.
Au Nord Kivu, la jeunesse de la commune de Moulekera dans la ville de Beni appelle l'ensemble des services de sécurité à assumer pleinement leur rôle de protection de la population et de ses biens. Cet appel intervient après une série de cambriolages perpétrés cette semaine par des hommes armés ainsi que l'assassinat d'un motard la nuit dernière au quartier Ngongolio. Selon le président communal de cette structure, la recrudescence d'actes criminels risque de fragiliser davantage la collaboration entre la population et les forces de défense, pourtant considérées comme essentielles dans le contexte de sécurité actuel. Kamabu Mukama, président de la jeunesse de Moulekira, exprime son indignation et sa crainte de voir se détériorer ce partenariat civilo-militaire. Il réagit au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes en train de déplorer cette insécurité qui se vit dans la commune de Moulekira aujourd'hui, où il ne se passe pas une nuit sans que nous ne puissions pas attendre qu'il y ait une incursion de bandits dans des maisons, dans des boutiques, par-ci, par-là, dans tous les 10 quartiers de la commune de Moulekira. Au même moment, nous venons d'être alertés à partir de 21h30 en Ngongolio, où il y aurait un assassinat des motards. C'est une situation qui risque de désolidariser ce mariage civilo-militaire où la population peut-être risque encore une fois de plus de se prendre en charge. Je me souviens il n'y a pas longtemps où la population commençait à passer nuit dehors juste pour qu'elle-même se sécurise. C'est pour cela que nous sommes en train d'appeler les services de sécurité, la police, l'armée et autres de veiller sur la sécurisation de la population et leur bien, qui est leur mission. La ville de Beni qui a beaucoup plus de policiers que d'autres villes de la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'est cette ville même qui est devenue maintenant une ville beaucoup plus insécurisée.
Sachez que tôt ce samedi matin, une forte tension a été observée au quartier Ngongolio, où des jeunes en colère ont érigé des barricades pour dénoncer l'insécurité. La police affirme avoir ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs de ces attaques. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, multiplie les initiatives pour redynamiser les forces armées de la RDC. En visite à Bruxelles depuis mercredi, Guy Kabombo Omoadiamvita a renforcé la collaboration avec l'École royale militaire de Belgique, véritable creuset de formation des élites militaires européennes. Le ministre s'est entretenu avec son homologue belge Theo Franken sur la modernisation des forces armées de la RDC face à l'évolution des défis sécuritaires actuels. Que retenir à ce sujet, Blaise Ndongala?
À travers leurs échanges tenus en présence de leurs délégations respectives, les ministres congolais et belges de la Défense ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération militaire et de consolider un partenariat stratégique durable dans les domaines de la défense entre Kinshasa et Bruxelles. La rencontre entre ces deux hommes d'État s'inscrit dans la continuité d'une coopération militaire historique entre la RDC et les Roms de Belgique, fondée sur une volonté commune de bâtir un partenariat de défense modernisé et structuré. Au cours de leur discussion, les deux autorités ont abordé plusieurs thématiques de coopération, notamment l'organisation prochaine de la commission militaire mixte prévue à Kinshasa du 23 au 26 mars courant. Guy Kabombo Modianvita et Théo Franken ont également évoqué la question de l'appui de l'École royale militaire de Belgique à l'Académie militaire de Kananga dans les domaines de la médecine militaire ainsi que dans la participation de la délégation congolaise au Salon européen de la défense BEDEX 2026. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coopération pragmatique et orientée au service du renforcement des capacités opérationnelles et de la stabilité régionale.
Comme annoncé en titre, les habitants de la province du Sankoro devront patienter encore avant de connaître leurs nouveaux dirigeants. L'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, initialement prévue pour le 7 avril, vient d'être reportée et sine die. La Commission électorale nationale indépendante parle de contraintes financières. C'est ce que Esther Ndalafina explique.
Dans un communiqué publié ce vendredi 20 mars, la Commission électorale nationale indépendante explique avoir réévalué le calendrier électoral. Elle affirme ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour poursuivre les activités opérationnelles liées à ce scrutin. Conformément à l'article 166 de la loi électorale, la CENI est tenue d'organiser l'élection dans les 15 jours avant la publication de la liste définitive des candidats prévue le 23 mars. Mais l'institution souligne que la poursuite du processus dépend de la mise à disposition des fonds, signalant qu'à ce jour, 11 dossiers jugés conformes ont été déposés pour la course au gouvernorat et au vice-gouvernorat du Sankoro. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Une journée de plaidoyer sur l'appropriation de l'application Tofungola Miso en français ouvrant les yeux s'est tenue hier vendredi à Kinshasa. Elle a réuni des députés et sénateurs membres du réseau parlementaire africain de lutte contre la corruption, APNAC. Cette application numérique permet à tout citoyen congolais de dénoncer des faits de corruption de manière anonyme ou non. L'initiative est portée par l'ASBL Dignité Humaine en partenariat avec la coopération allemande GIZ et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC. Des détails avec Grâce Amzati.
Selon Elodine Tamozinda, coordonnatrice de l'ASBL Dignité Humaine, cette journée de plaidoyer s'est transformée en cadre d'échanges approfondis au regard de l'intérêt manifesté par les parlementaires. Elle appelle les Congolais à plus de vigilance et à dénoncer les faits de corruption, preuve à l'appui.
Nous parlons de corruption sous toutes leurs formes. Oui, mais c'est lorsqu'il y a enquête qu'on sait détecter et identifier ou différencier les infractions.
Pour sa part, le député Jean-Pierre Passizapamba, président de l'APNAC, invite les élus à s'approprier cette lutte afin de combattre ces fléaux qui freinent le développement du pays.
Dans mon pays, ce que j'observe, le matin, on dénonce la corruption, à midi, on corrompt, et le soir, il y a encore une autre activité. Même si vous détruisez aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, la bonne gouvernance va vous rattraper.
De son côté, Benilor Kamuiziku, coordonnatrice adjointe en charge de la détection, prévention et administration à l'APLC, rassure sur les efforts en cours. Elle encourage la population à utiliser l'application Tofungola Miso pour dénoncer les cas de corruption qu'elle qualifie de véritable cancer pour la société. À cette occasion, l'ASBL Dignité Humaine a également présenté son plan d'action du projet avec l'ambition d'éteindre la campagne de sensibilisation dans plusieurs provinces du pays.
La MONUSCO vient d'apporter un appui logistique au gouvernement provincial du Nord Kivu pour accélérer les travaux d'extension de la piste de l'aéroport de Mavivi à Beni. Depuis quelques mois, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé les travaux de modernisation de cet aéroport, seule porte d'entrée et de sortie aérienne dans la province depuis une année à la suite de l'occupation de la ville de Goma par l'AFC 123. La mission onusienne vient notamment de mettre à disposition 8 camions et des engins lourds afin de permettre l'avancement rapide du chantier avant l'arrivée de la grande saison de pluie qui risque de ralentir les travaux. Suivez ces explications d'Abdourahman Ganda, chef de bureau de la MONUSCO Beni. Il est au micro de Martial Papimoukeba.
Le nouveau chantier de l'aéroport de Beni consiste en extension de la piste pour aller jusqu'à 3300 mètres et puis à la construction d'un nouvel aérogare. Le gouvernement nous a sollicité pour les accompagner dans ce projet. Il nous a demandé de mettre à leur disposition 3 camions par jour avec des chauffeurs et du carburant. Nous en avons mobilisé 8. Nous avons ajouté 2 pelleteuses et puis 2 chargeurs. L'objectif, c'est de pouvoir faire avancer les travaux au maximum, le plus tôt possible avant que la grande saison de pluie ne s'installe et qu'elle empêche l'évolution du chantier. C'est une manière pour nous de contribuer à cette œuvre de développement de la zone. Vous savez que le développement et la paix, qui est notre mandat, sont indissociables. Le gouvernement a demandé 3 mois, c'est ce que nous allons faire. Les travaux consistent au terrassement, ensuite dégager toute la latérite qui a été sortie du chantier et au nivellement. Quand le moment de mettre le tarmac sera arrivé, on va réviser, voir notre contribution.
Les organisations locales engagées dans la conservation de la nature au Nord Kivu demandent un appui urgent en faveur de la réserve naturelle de Sarambwe. Il est situé à Rutshuru, dans le groupement de Binza, à la frontière avec l'Ouganda. Ce sanctuaire de 10 km carrés est un pont vital pour les gorilles de montagne entre le parc national de Virunga en RDC et le parc de Bwindi en Ouganda. Pourtant, aujourd'hui, cette réserve est totalement abandonnée. Même les populations riveraines ne tirent aucun profit de sa conservation. Ces organisations demandent un engagement urgent du gouvernement et de ses partenaires en faveur de cette réserve. Plus d'explications avec Rosalie Zaradi.
Selon l'Association des jeunes pour le développement des Sarambwe, les communautés locales veulent voir des actions concrètes pour les encourager à continuer à préserver ces terres protégées. Mouindo Kibunga Elias est membre de cette organisation des jeunes.
Ces populations autochtones et riveraines locales n'ont jamais bénéficié vraiment des projets qui suscitent leur attention de bien accompagner la conservation. Et au niveau local, nous plaidons vraiment pour qu'il y ait construction d'abord des infrastructures au niveau local, des infrastructures routières, la construction d'un centre de santé de référence pour que les autochtones locaux puissent accéder aux soins de première nécessité.
Sur place, la population demande aussi le réaménagement des écoles, la construction d'une centrale hydroélectrique, mais aussi l'appui aux activités d'agriculture et d'élevage. Tout ceci passe par la création d'un fonds spécial pour Sarambwe, un fonds soutenu par le gouvernement et les partenaires internationaux pour transformer enfin la protection de la nature en développement réel dans cette zone. Notons que Sarambwe n'abrite pas seulement les célèbres gorilles des montagnes. Ces sanctuaires protègent aussi des chimpanzés et des dizaines d'espèces d'oiseaux qui font de cette forêt un trésor de biodiversité en RDC. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après Hormuz, le blocage de notre détroit stratégique pourrait secouer l'économie mondiale. Alliés de l'Iran dans la guerre au Moyen-Orient, les rebelles houthis du Yémen menacent de bloquer le détroit de Bab-el-Mandeb aux navires des pays qu'ils accusent d'agresser les membres de l'axe de la résistance, à savoir l'Iran, le Liban, la Palestine et l'Irak. Le détroit de Bab-el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, est un passage maritime important et constitue une voie vitale pour le transport maritime, notamment pour les hydrocarbures, pétrole, gaz, entre l'Europe et l'Asie.
L'invité.
Forêt et économie, sous le thème de la Journée internationale des forêts, aujourd'hui 21 mars. À cette occasion, l'organisation Les écologistes RDC plaide pour une reconnaissance concrète des efforts fournis par les communautés locales et les peuples autochtones dans la protection de nos forêts. C'est à travers une correspondance adressée à la ministre de l'Environnement. C'est pour parler de ce plaidoyer que nous recevons Prince Kiangui, coordonnateur de l'organisation Les écologistes RDC. Il répond ici aux questions de Rosalie Zawadi.
Prince Kiangui, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui justifie cette demande que vous venez d'adresser au ministre de l'Environnement?
En effet, comme nous allons globalement parler des forêts, nous sommes dans l'obligation de parler des personnes qui conservent et qui protègent les forêts. Voilà pourquoi je me suis adressé à son Excellence Madame le ministre de l'Environnement pour dire que, à cette occasion, il faudra ce que nous puissions exprimer nos sentiments de gratitude et de reconnaissance aux communautés locales et aux peuples autochtones pygmées. Parce que si aujourd'hui la RDC est reconnue comme pays solution en matière de lutte contre le changement climatique, c'est évidemment parce que nous avons des grandes forêts, des forêts primaires. Et ceux qui gardent ces forêts, ce sont les communautés locales et le peuple autochtone. Ce n'est pas dans nos bureaux climatisés où nous conservons les forêts, mais les forêts sont conservées et gardées par des communautés locales et des peuples autochtones pygmées. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une journée internationale, en tout cas, j'estime que c'est une journée dédiée aux communautés locales et aux peuples autochtones pygmées. Voilà pourquoi je me suis adressé à madame, pour que ces communautés se retrouvent dans la célébration de cette activité, qu'on ne se limite pas dans des bureaux dans la célébration, sur des chaînes de télévision, mais que ces communautés, ces peuples autochtones, jouissent des retombées de la conservation des forêts.
Qu'est-ce qui devrait être fait concrètement selon vous?
Il y a de l'argent qui est donné aux États qui conservent des forêts pour que ça soit une contrepartie de la conservation. Aujourd'hui, si nous parlons des forêts comme journée internationale, nous voulons que le gouvernement sache qu'il y a des personnes qui travaillent, qui conservent et qui protègent. Et que ces personnes-là, nous devons investir dans leur développement. Que ces communautés trouvent des alternatives à la forêt, parce que ces communautés se privent de tout avantage issu des forêts parce que nous conservons afin que le monde respire. Alors, ces personnes qui nous donnent de l'air frais, mais pourquoi, à l'occasion de la célébration, nous n'avons pas d'attention particulière sur eux? Voilà pourquoi je demande au gouvernement de faire quelque chose. D'abord, un message qui exprime nos sentiments de satisfaction et de reconnaissance à toutes ces populations, mais également développer des projets intégrateurs, des projets de développement dans les milliers de vies de ces communautés-là. Qu'elles sachent que c'est parce que nous conservons, c'est parce que nous protégeons les forêts que nous avons tel projet au sein de la communauté. Et ça motive les membres de la communauté à conserver davantage et à protéger les forêts.
Mais avant cette reconnaissance que vous demandez de la part du gouvernement, ces populations, à la base, qu'est-ce qu'elles tirent comme avantage de la protection de la forêt?
Tout naturellement, quand les communautés protègent et conservent les forêts, ces communautés savent que la vie de l'homme est liée à l'existence des forêts. C'est des forêts que nous trouvons des bois pour nous construire des maisons. Si nous pouvons trouver à manger, les chenilles, les champignons, tout ça c'est dans la forêt. Mais aussi, il faut retenir que c'est dans la forêt qu'il y a des activités d'exploitation minière. Que donc, même si les communautés s'organisent à ne pas détruire la forêt, mais nous reconnaissons que même la richesse du sous-sol se trouve être dans la forêt. Mais également, par exemple, sur le plan culturel, on est coutumier. On sait que toutes les cérémonies coutumières, traditionnelles, s'organisent dans la forêt. C'est à partir de la forêt que nous parlons à des aïeux. Aussi, il faut retenir que sur le plan sanitaire et médicinal, tout est tiré de la forêt.
Et quels sont les défis de la conservation des forêts dans l'est de la RDC?
Il y a des défis énormes. D'abord, il faut reconnaître que la plupart de ces communautés locales sont pauvres. Cette pauvreté pousse certains membres des communautés à envahir la forêt. Parce que je vois des gens qui s'adonnent à la coupe abusive des arbres, parce qu'évidemment, il n'y a pas de projet alternatif. Lorsqu'il n'y a pas du courant, c'est pourquoi on félicite même Virunga SARL, lorsqu'on produit du courant en faveur de ces communautés-là, et là, on réduit les menaces des communautés sur la forêt. Alors, là où il n'y a pas de projet alternatif comme celui-là, c'est-à-dire que les communautés vont s'attaquer à la forêt. Mais l'autre défi, par exemple dans la région ici, c'est l'aspect sécuritaire. La situation sécuritaire qui date depuis plus de 20 ans, parce que ces hommes qui sont en brousse, personne n'a le contrôle sur eux. Que donc, leur moyen de survie, c'est la forêt. Et que donc, tant qu'on n'aura pas la paix dans nos villages, en tout cas, la forêt sera toujours exposée.
Monsieur Prince Kihangi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de l'organisation Les Écologistes RDC. Merci.
Bien, merci.
Voilà qui met fin à ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, avec André Bongo à la technique, à la mise en onde, et Babel Pongo-Massimango à la présentation. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Passez un bon week-end. Pour la suite de l'actualité de ce jour, vous serez avec Jean-Désiré Kanyama.